Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Sey avec vous au micro de Canal M, la radio de Vues et Voix. Heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour vous présenter cette émission que j'ai préparée avec des invités qui vont m'entourer une fois encore pour vous présenter des livres, des nouveautés, quelques petites vieilleries aussi, mais des belles vieilleries. Et puis il y aura toutes les rubriques que vous aimez. On va retrouver Carmen Lepage, entre autres, qui va signer une chronique aujourd'hui. Il y aura Jean-Daniel Aubin qui est déjà à l'autre bout du téléphone et avec qui je vais m'entretenir dans quelques secondes. Et puis, on va faire un petit spécial Félix Leclerc en ce début d'émission. J'accueille ici en studio Christine Tassan du groupe Christine Tassan et les Imposteurs. Vous savez que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et vous savez peut-être aussi qu'elle vient de sortir un album qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Entre Félix et Django. Ce sera l'occasion de parler de ce que nous avons enregistré de Félix. Je parle bien sûr de littérature et de parler aussi de cet album-là qu'il va falloir à tout prix que vous écoutiez. Alors je vous le disais, on va commencer tout doucement cette émission avec l'ami Jean-Daniel Aubin qui décidément est un habitué hein, avec nous. Oh, il faudrait peut-être d'abord que je vous accueille. Oh, attendez, je vais vous accueillir en musique, Jean-Daniel, d'accord ? Et oui, puisqu'il sera question de musique, c'est important qu'on en diffuse. Comment allez-vous, Jean-Daniel?
Ça va très bien. Cette musique-là, ça manquait pour me mettre dans le mood.
Ça vous met de bonne humeur, hein?
Oui, toujours.
Je dois dire que l'indicatif de tout le monde en parle, des livres pleins les oreilles, tout le monde m'en parle. Voilà, c'était ça que je voulais dire.
Ah, ben c'est bien.
Jean-Daniel, vous nous arrivez avec un livre cette semaine. Je suis très contente que vous nous en parliez parce que c'est une nouveauté. Ça vient juste d'arriver dans le catalogue des livres audio adaptés pour les non-voyants. Alors, je vous laisse nous le présenter.
Oui, alors, c'est un roman policier de l'auteur Guillaume Morissette. Donc, c'est un jeune auteur. Donc,
oui, hein?
Oui, né en 75. Donc, assez jeune, comparativement à moi.
En tout cas, moi, je pourrais être sa mère.
Oui, c'est ça. On pourrait être ses parents.
Oui, voire... Enfin bon, bref.
Et finalement, c'est ça, c'est un roman absolument captivant.
Oui.
Naturellement, comme le titre, L'affaire Mélodie Cormier, ça, c'est une enquête sur la disparition d'une jeune fille, Mélodie Cormier.
Oui.
Je dirais ces deux enquêtes en parallèle.
OK.
Il y a les enquêteurs, les policiers, l'enquêteur Héroux et son équipe très moderne et très chevronnée qui font une enquête sur la disparition de Mélodie.
Mm-hmm.
En même temps, un jeune garçon, un jeune homme, Marco, reçoit une lettre anonyme lui disant que s'il réussit à résoudre les prochaines énigmes, il réussira à savoir la vérité sur la mort de ses parents quelques mois plus tôt.
OK. Et là, donc, pour le moment, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un lien, évidemment, entre ces deux énigmes, entre ces deux histoires. C'est bien ça?
Non, au début, ça prend vraiment quelques chapitres avant. Plus on avance dans l'un et dans l'autre, dans l'enquête policière, vraiment, c'est le père de Mélodie qui est le suspect.
Oh!
Parce que toutes les pistes mènent vers lui. Dans l'énigme que Marco reçoit, il faut qu'il en résout de plus en plus. L'énigme l'envoie dans un autre endroit pour résoudre d'autres énigmes.
C'est un peu comme une poupée russe, là, d'après ce que vous me dites.
Oui, c'est vraiment comme une poupée russe. Il s'approche de plus en plus du but, aidé par sa copine Josée. Jusqu'au moment où, à son tour, il se fait kidnapper.
Oh boy, bon.
Et c'est là.
Ça va mal.
Et c'est là qu'on commence à faire un peu un lien. C'est là qu'on trouve assez étrange le kidnapping de Marco parce qu'il était en train de découvrir la personne qui aurait pu enlever Mélodie.
OK. Mais là, il ne faut peut-être pas trop en dire, là.
Ah non, 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 j'en dis pas.
Non, ah d'accord, parce que tout ça, ça se passe relativement au début, là.
Oui.
OK, OK, OK.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre nous.
J'ai lu quelque part, vous me direz si c'est vrai, Jean-Daniel, c'est un lecteur qui trouve d'ailleurs que c'est un excellent roman. Il dit qu'il est superbement construit. Et ce lecteur dit, quand j'ai acheté le livre, on m'avait dit qu'il s'agissait d'un polar sans sang, donc oui. Sang avec un S, sang avec un G, et sans violence, et c'est exactement cela.
Exactement, il y a absolument...
C'est propre, propre, propre.
Aucun coup, aucune violence, aucun meurtre.
Mais c'est pas plate.
Ah non, 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 au contraire, c'est je dirais même, c'est un polar psychologique. Mm-hmm. Ça nous fait vraiment marcher le petit hamster, là, dans...
Ah oui?
Oui, vraiment, parce que c'est nous-mêmes, on essaie de d'élucider les énigmes. Moi, je me suis en tout cas surpris à essayer de trouver avant qu'il donne la réponse.
Avez-vous trouvé?
Puis essayer de trouver aussi le personnage qui a kidnappé. C'est vraiment ça. Et le but que cette personne-là avait en kidnappant la jeune fille, c'est les bras nous tombent à terre parce qu'on ne peut pas s'imaginer ça.
Oui, à ce point-là.
Oh. Pourquoi on enlève une enfant?
Oui, non, ben ça c'est certain. Avec ça, c'est une môme, elle a 10 ans hein, au moment de sa disparition.
Oui, elle a 10 ans. Et je veux dire, somme toute, quand Marco va la retrouver à un moment donné, pendant sa période de vie de kidnapping, elle est en forme, elle mange bien, ils ont du plaisir. Donc, c'est la psychologie de la personne qui est kidnappée qui est étrange.
Alors, c'est un auteur, vous l'avez dit, tout jeune, québécois. Je le lisais en faisant encore une petite recherche, que c'est un homme qui a été récipiendaire du prix d'excellence en enseignement en 2012, qui est quand même la plus haute distinction honorifique remise à un chargé de cours.
Mais ça se voit dans
l'écriture, non?
Dans l'écriture, puis ça se voit aussi... dans ses personnages.
Ah oui, OK.
Parce que ces personnages sont très articulés. Les inspecteurs, on se croirait même dans son équipe de l'inspecteur Hirou, on se croirait dans la série CSI New York.
Ah oui? Oui,
parce qu'il y a une équipe scientifique, il y a un graphologue, vraiment, il est entouré vraiment de gens... une personne plus expérimentée, mais s'il est entouré de jeunes avec des nouvelles méthodes d'enquête.
Ça
aussi, c'est aussi captivant parce que
on n'est pas toujours dans le même ronron là dans les enquêtes parce qu'il y a un moment donné où ça devient un petit peu répétitif. Là, il y a d'autres moyens de moyenner, comme on dit.
Oui, puis c'est très moderne.
D'accord.
Comme écriture. Okay. Et qu'est-ce qui est surprenant je vais vous dire, presque pas de sacre.
Oh non! Mais alors, pas de sacre, pas de sang, pas de... Et c'est pas plate. Bon, ben écoutez, si vous me le dites.
Ah, moi, je l'ai dit, je le conseille et je le relirai même.
D'accord. Écoutez, Jean-Daniel, je vous remercie beaucoup, 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 encore une fois, d'avoir participé à cette émission des livres plein les oreilles. Je vous invite à rester maintenant comme auditeur de cette émission. Vous allez redécouvrir la littérature de Félix Leclerc, du moins je l'espère, et vous allez découvrir ce disque formidable qui vient donc d'être produit par Christine Tassan et Les Imposteurs. Je vous remercie beaucoup, Jean-Daniel. Je vous dis à une prochaine fois.
Absolument. Je suis toujours content de participer.
Formidable. Et bonne fin de journée.
Merci vous aussi.
Salut.
Chambre d'hôtel à Saint-Germain, les grands boulevards et le métro, chacun sa guitare à la main. La joie de vivre en Parigot, une rencontre d'après-guerre, Paris vivant qui veut swinguer, Django Reinhardt, Félix Leclerc, une affiche dont on peut rêver. Entre Félix et Django, ce fut l'amitié tout de go, le grand six pieds, l'homme aux trois doigts, Hôtel Cristal rue Saint-Benoît. Entre Félix et Django, ce fut l'amitié tout de go, le grand six pieds, l'homme aux trois doigts, Tzigane et poète à la fois. voix grave de Félix Leclerc. On peut toujours imaginer ce que ces deux-là ont chanté. Le train du Nord va faire un tour, s'évade aux puces de Clignancourt. Un air fredonné à nos gens revivra sur l'île d'Orléans. Entre Félix et Django, c'est la musique à vol d'oiseau. Quand le frère gitan de Bozo y va d'un air au grand galop. Entre Félix et Django, c'est la musique à vol d'oiseau. Quand le frère gitan de Bozo s'amuse à faire jaser les mots. Le Saint-Laurent se met en scène, rue Sainte-Catherine, porte d'Italie. Comme de vieux potes, ils se promènent, de la Bastille à l'île Saint-Louis. Une paire de souliers qui voyagent, Grappelli, Gréco et Boris. Un fils du vent et des nuages, et Django rencontra Félix. Entre Félix et Django, sur des chemins qui font rêver, c'est la vie qui bat le tempo, pour un hymne à la liberté. Maintenant Félix et Django, entre Paname et Montréal, dans un sentier près d'un ruisseau, font des chansons sous les étoiles. Hey! Maintenant Félix et Django, entre Paname et Montréal, dans un sentier près d'un ruisseau, font des chansons sous les étoiles.
Voilà. Salut Christine.
Allô.
Alors Christine, on va pas, on pourrait faire semblant qu'on se connaît pas et qu'on va se vouvoyer, mais non, ça fait presque 25 ans en tout cas, bien comme il faut, je pense.
Oui, qu'on se connaît. Alors le vouvoiement, on va laisser tomber.
On va laisser tomber tout de suite. Christine, ce qu'on a entendu, c'est la plage 1 du dernier album que tu viens de produire avec ton groupe, mm-hmm. Christine Tassin et les Imposteurs. Si je t'ai invitée, c'est parce qu'il y a question de Félix Leclerc.
Oui.
Et de Django. Et cette chanson-là, je ne sais pas si les gens l'ont bien écoutée, mais ça raconte l'histoire. Parce qu'au départ, il y a une histoire de rencontre un peu improbable à Paris que je voudrais que tu nous racontes.
Oui, effectivement. Félix Leclerc arrivait à Paris en 1950. Il est arrivé à Paris pour sa première tournée. Il n'était pas connu du tout.
Non.
Et il a été logé dans un hôtel avec sa famille.
Oui.
Dans un petit hôtel du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris.
Oui.
Et à un moment donné, pendant la nuit, il entendait un gars qui jouait constamment de la guitare. Puis là, il dit à sa femme, il m'empêche de dormir, mais qu'est-ce qu'il joue bien, le gars. Et finalement, y a quelqu'un qui a fini par lui dire, écoute, le gars en question, il s'appelle Django Reinhardt, qui était une star internationale.
Ouais. Ce que n'était pas Félix à
l'époque. Non, pas du tout.
Parce que lui, il débutait.
Il n'était pas connu en France, mais il a été connu très rapidement. Ça a été phénoménal.
Oui.
Et les deux se sont rencontrés comme ça et sont devenus amis. Leur famille habitait là. Ils avaient chacun un garçon qui avait à peu près le même âge. Donc les garçons jouaient dans les couloirs de l'hôtel. Les femmes se sont rencontrées. Et voilà, ils sont devenus amis.
Alors, il y en a un, le Manouche, le Gitan, mais belge.
Oui.
Et puis l'autre, pas Manouche, pas Gitan, mais en quelque part Zigane aussi dans le cœur, Félix, sur son île d'Orléans.
Oui.
Rencontre improbable entre ces deux-là. Et ce que j'ai trouvé, moi, intéressant dans ce disque que tu nous proposes avec les imposteurs, c'est que ne vous attendez pas, mesdames et messieurs qui nous écoutez, à du Félix en Manouche. C'est pas ça du tout.
Non, effectivement.
C'est plus loin que ça. Il y en a une partie comme ça, mais c'est pas ça. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu as voulu nous proposer?
Nous, on est parti donc de cette rencontre qui a vraiment existé. Et suite à ça, à la connaissance de cette rencontre-là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec la musique de Félix et celle de Django. Et on a décidé, on s'est lancé un défi, parce que vraiment, c'était un défi. On a sélectionné une douzaine de pièces de Félix et on a mélangé chaque pièce de Félix avec une composition de Django Reinhardt.
Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'accord les accords de l'un vont se mêler aux accords de l'autre et on va s'en aller d'une pièce connue de Félix vers une pièce peut-être moins connue, parce qu'ici, on connaît évidemment beaucoup les pièces de Félix, mais on connaît beaucoup moins celles de Django.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, ça va être l'occasion aussi de faire un peu plus connaissance avec Django Reinhardt. Alors, je voulais profiter de ta présence ici, Christine, puisqu'on parle beaucoup de Félix Leclerc, pour rappeler à nos auditeurs qu'il y a énormément de livres qui existent en version audio adaptée. Alors, non seulement ils pourront écouter l'album que tu viens de produire entre Félix et Django, mais si l'envie vous prend de relire du Félix Leclerc, sachez qu'il y a ses contes, ses fables et ses poèmes qu'il avait sortis sous le vocable de Adagio, Allegro et Andante qui sont disponibles. Il y a Le calepin d'un flâneur. Il y a également Dialogue d'hommes et de bêtes.
Oui, c'est chouette.
C'est très chouette. Il y a l'incontournable Pieds nus dans l'aube, qui est là. Et puis, en ce qui concerne cet adagio, par exemple, j'ai envie peut-être de vous en lire un petit extrait. Et puisqu'on a de la musique de Félix jouée par vous, donc l'ensemble Christine Tasson et les imposteurs, on va en écouter un petit bout. Puis sur la musique, je vais vous lire un extrait de Adagio. Plus on dit dans les écoles que la province de Québec, c'est la plus belle place au monde, plus le feu est haut. Plus les petites filles sont fières de parler le français, et plus le feu est clair. Plus il y a de monde dans les églises, plus le feu chante sur la grève. Un feu, tout dépend de ce qu'on met dessus. Du sable, ça l'éteint. Il faut pas dire qu'on est bon à rien, jamais, ça éteindrait le feu. Faut rire, chanter, danser, écrire, peindre, s'amuser dans notre langue. Ça, c'est de belles brassées de boulot dans le feu. En avant, là, la guitare, c'est toi, ça, Christine.
Oui, effectivement.
On s'amuse toujours parce que Christine, elle a des tout petits bras et des tout petites mains. Mais ça joue, ça, madame.
Mais pas si petite que ça pour ma taille. J'ai des mains assez grandes. Je sais pas que je suis pas grande, mais j'ai des mains assez grandes.
Et puis là, c'est Martine Beaumont parce que je voudrais qu'on...
Oui. Gaumont.
Ah, c'est Gaumont?
Oui.
Pourquoi j'ai toujours dit Beaumont?
Ah ben, je sais pas. C'est Gaumont.
Et ben, dites, bon,
comme
alors,
le cinéma, mais
voilà,
avec un D et pas un T.
Donc là, c'est elle que vous entendez en ce moment. Et puis... ici, à la contrebasse.
Blanche Baillargeon.
Blanche Baillargeon. Et puis, il y a également à la guitare rythmique.
Lisanne Ross.
Voilà, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que sinon, tout se casse la figure.
Effectivement,
hein.
Très important.
Si la guitare rythmique n'est pas là, ça ne marche pas. On l'écoute encore un petit peu. Alors là, c'est ça, on vient de switcher, si on peut me permettre l'expression, sur du Django, c'est bien ce qu'on expliquait tantôt.
Mais oui, avec comme ça, sans s'en rendre compte, on est passé à Minor Swing. On est passé du Petit Bonheur
à Minor Swing.
Voilà.
Et ça colle.
Et ça marche bien.
Et ça marche très bien. Tout à l'heure, je lisais du Félix un extrait d'Adagio. C'était extrait de Errant d'Adagio. Puis je me disais que ces mots-là, c'est tellement de la musique.
oui. les mots de Félix.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
Et il me semblait...
Sa prose était très musicale aussi.
Oui, ouais, c'est ça. Si j'avais eu le talent de l'imiter, ce que je n'oserais pas faire, il me semblait l'entendre. Il me semblait que je le lisais, puis je comprenais comment il avait dû
écrire les chansons.
Ça, exactement. Brassens aussi disait
même
ça.
Même chose.
Brassens, il disait que lorsqu'il écrivait, que la mélodie était évidente, il suffisait qu'il lise tout haut le texte pour que la mélodie sorte d'elle-même,
okay.
Parce qu'il l'entendait. Elle faisait déjà partie des mots.
De son écriture, oui.
Et est-ce qu'on aurait pu mettre des mots sur la musique de Django ?
Y en a qui l'ont fait.
Il y en a qui l'ont fait.
Oui, par exemple, Nuage.
Oui, c'est vrai.
Il y a des mots qui ont été mis. On y a pensé. En fait, on l'a fait un petit peu.
Oui.
Dans une des pièces de l'album... Moi, mes souliers.
Ouais.
On a mélangé ça avec Nuit de Saint-Germain-des-Prés, qui est une pièce assez moderne de Django. Ouais. Et à la fin, sur la musique de Django, on a adapté les paroles de Moi, mes souliers. Donc, on a comme mélangé justement,
Les mots de Félix,
les mots de Félix
sur
la musique de Django. Bon, de Django. On a fait ça sur une pièce, petit bout, mais on s'est dit que c'était amusant.
Alors, Nuage, justement, on en parlait, c'est l'une des pièces les plus connues. C'était un incontournable dans l'univers de Django Reinhardt. Alors, on va écouter un petit bout de Nuage et je vous propose là-dessus de vous lire un extrait d'un livre qui est également un incontournable de Félix Leclerc, qui est aussi disponible en audio, toujours au SQLA. C'est Le fou de Lille. Il s'agit d'un prologue. Un prologue écrit par la fille de Félix Leclerc, Gaëtane Leclerc. Ah, c'était sa femme.
Oui, ouais.
Pardon. Gaëtane, et c'est ça, parce qu'en même
sa
temps,
fille,
je
c'est
le disais.
Nathalie,
ah, c'est
Leclerc.
Ça, c'est Nathalie, ouais. D'accord. Donc, Gaëtane.
C'était sa première femme.
Voilà. Ouais. Et donc, elle a écrit ça le 7 juin 1989, parce que j'ai une édition sous la main, qui est une édition numérotée, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on avait demandé à Gaëtane d'écrire un petit mot. Et voilà ce qu'elle écrivait. Mon cher F, comme fou, comme filou. On m'a dit que tu étais parti de Lille pour toujours. Il y a cet immense silence insupportable dans ton bureau, la cuisine, la chambre, dans toute la maison bien sûr. Mais quand je vais dehors, tu es dans chaque arbre que tu as planté. Ton tilleul, tes chênes, tes innombrables bouleaux, notre épinette bleue, mes rosiers. Dans la petite route qui mène au fleuve, dans ta cabane en bois rond, le phare où nous allions sur les battures est tombé au début de l'hiver. Dans le verger redevenu sauvage sans toi, dans la petite mésange à la fenêtre, dans les enfants avec tes yeux clairs. Toutes tes paroles, ta voix, flottent au-dessus des pâturages de silence que quelqu'un, quelque part, mais où, répète inlassablement pour me rassurer, me prouver, me jurer que tu seras toujours ici, en moi, comme au fond d'un berceau, un enfant qui sommeille. Je vais aller avec toi en prenant bien mon temps, comme tu le désirais, mon grand filou. Mais quand ? J'ai retrouvé un poème sur ton bureau l'autre jour. Tu écrivais « Je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai. Écoute l'écho venant d'ici. Oui, pour toujours, ta fille de Lille, Gaëtane Leclerc. » Thank you. Heureux mélange, hein?
Oui,
Nuage,
oui.
Bozo. Encore une fois, on a l'impression que ça va de soi. Mais ça n'a pas dû être si évident que ça, hein, Christine, de mélanger tout ça.
Non, effectivement, tout le monde me dit « Ah bah oui, c'était évident de mélanger Félix et Django. » Puis, ben non, c'était pas si évident que ça. Ça nous a pris 2 ans de dur labeur pour arriver à faire, ouais. à faire des arrangements qui fonctionnaient, quoi, finalement, ouais, ouais. en transformant un peu les deux.
Est-ce que les enfants sont au courant de ça?
Non. Je
Nathalie
crois pas.
Et puis comment il s'appelle, Francis.
Non,
Francis
mais j'ai dans l'idée de leur envoyer très prochainement à chacun un album. Oui.
Parce que je pense qu'ils vont. On peut pas ne pas être touché, quoi. Parce que c'est tellement original.
Oui, je pense qu'on a trouvé une idée assez originale. Ouais. Enfin, ça s'était jamais fait, je pense pas, là, à ma connaissance. Et j'aimerais ça leur envoyer. Oui, j'aimerais ça leur envoyer.
Mais oui, ben oui. Moi, je voudrais aussi alors vous dire que, en dehors de Adagio Allegro Andante, Le Calepin d'un flâneur, Le choix de Félix dans l'œuvre de Félix Leclerc, Le dernier Calepin, Dialogue d'hommes et de bêtes, Le fou de Lille, Pieds nus dans l'aube, il y a aussi Rêve à vendre, ou Le troisième Calepin du flâneur. Et puis, je voudrais vous préciser qu'il y a une bio qui est de Félix Leclerc, écrite par Jacques Bertin. Et je pense qu'on s'entend pour dire, Christine Tassan et moi-même, que c'est la meilleure.
Oui, elle est vraiment bien. Elle est très, très bien écrite. Moi, j'en ai lu plusieurs des bios, justement, pour me renseigner sur la vie de Félix. Ouais. Et c'est celle que j'ai le plus aimée, parce qu'elle elle décrit l'homme, mais elle décrit aussi toute l'ambiance qu'il y avait à l'époque, tout au long de sa vie. Donc, on en apprend vraiment beaucoup sur le Québec aussi, en général.
Et ça s'appelle « Le roi heureux » de Jacques Bertin, Félix Leclerc, « Le roi heureux ». On a beaucoup fouillé aussi autour de l'œuvre de Django, en fait, de biographies qui auraient pu être écrites. Vous en avez une, mais alors qui date de Mathusalem. Il faut tout de suite que je vous dise, j'en ai pas trouvé
d'audio
adapté. Mais on va essayer de lancer une commande. C'est ce que m'a promis Madame Robida du côté de chez Vues et Voix. On va essayer de lancer une commande pour une nouvelle. Il va y avoir une nouvelle bio qui va s'appeler, qui s'appelle d'ailleurs, en fait, elle est sortie sur papier. En juin 2015, donc l'an dernier, ça s'appelle « Le génie vagabond ».
Ok. Ah,
j'aime ce titre. Une biographie de Django écrite par Noël Baden, B-A-D-E-N. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse mettre la main là-dessus et l'enregistrer en audio adapté. En 30 secondes, Christine, après le 5 mai, vous avez des shows de prévues assez rapidement?
On a des shows de prévues, oui. On joue à la Maison des Arts de Laval le 22 mai et 29 mai.
D'accord.
Et puis, on va être à Québec le 26 mai au Palais Montcalm.
OK.
Et on va être aussi le 19 mai au Dièse 11 Jazz Club, ici à Montréal, de 6h à 8h.
Eh bien, merci beaucoup. C'était Christine Tassan. Et ce que vous entendez, c'est Entre Félix et Django, cet extrait de ce disque-là. Merci beaucoup, Christine.
Merci
d'être venue. Salut. Clotilde Seil et ses invités, c'est la deuxième partie de l'émission des livres plein les oreilles. Et c'est avec grand plaisir que je me tourne vers Carmen Lepage. Ça faisait trop longtemps.
Ah non, ça se pouvait pas. Il fallait que je revienne, bien sûr. Je suis venue en courant presque.
Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Uh-huh. Surtout pour venir nous parler du livre d'un homme que nous aimons beaucoup l'une
exact.
Comme l'autre. Enfin, là, je parle de l'auteur. Je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer l'individu. Je vous laisse aller nous présenter
D'accord.
ce livre.
D'accord. Alors, Laurent Godet... Je vais parler de « Danser les ombres » de cet auteur, qui est un auteur français contemporain que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et ça a donc été un immense privilège pour moi de le lire du côté du studio pour mm-hmm. les usagers.
Oui.
Je sais qu'on partage, vous l'aimez presque autant que moi, hein, Clotilde, presque.
En tout cas, je l'aime beaucoup.
Oui,
il fait partie
je sais.
De ceux que
je suis
capable de le lire une fois, deux fois, trois fois, avec un grand plaisir.
Oui. Alors, Laurent Godet a d'abord fait ses gammes dans l'écriture de textes dramatiques et ça paraît. Avoir quelques-uns des sujets de ses livres, par exemple, on pourrait dire qu'il les puise dans l'actualité et les catastrophes qui y sont liées. Ouragan portait sur Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans.
Ouais.
Eldorado
traitait
des migrants échoués à Lampedusa en Sicile. Et puis, Danser les ombres, pour sa part, lui, s'intéresse au tremblement de terre en Haïti qui a eu lieu en janvier 2010 et qui a fait, rappelons-le, 300 000 morts.
Oh, j'avais oublié ce chiffre. Ah
non, c'est incroyable. Et mais le thème qui court dans tout le récit est, selon lui, comment les gens essaient de s'arc-bouter contre le vent du malheur pour vivre. Très important de retenir cette phrase. Un petit résumé, c'est une histoire en deux parties. Dans la première, Lucine arrive à Port-au-Prince pour annoncer un décès, mais finalement décide d'y rester pour y réinventer sa vie. Elle a l'occasion de se lier avec un groupe de personnages fort colorés, d'ailleurs, qui se retrouvent au Fessou. C'est un ancien bordel, pour jouer au domino et se rappeler des souvenirs, discuter politique, poésie, même philosophie. Elle y croisera l'amour, qui va s'appeler Sable. Et la deuxième partie, elle, c'est différent. Raconte l'après-tremblement de terre, où on part à la recherche des personnes que l'on aime. On imagine comment ça peut être difficile, pour savoir s'ils sont encore vivants. Le fantastique y croise ici une réalité déchirante.
Oh là, ça doit.
Tout à fait. C'est un roman merveilleusement bien écrit. La langue de Godet est intense, poétique, émouvante, et la fin est assez lyrique. Peut même être déstabilisante, étonnante. Elle trouve sa place, vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai lu plusieurs critiques, justement, qui allaient dans ce sens-là.
Ah ouais?
Oui. Alors,
mais moi, je le savais ou je l'avais entendu avant, donc j'étais préparée, j'étais avertie. Mais moi, je vais vous dire, pour à la défense de ça, que c'est comme dans la continuité logique du roman quand on y regarde de plus près. Je ne veux pas en parler davantage pour ne pas brûler le punch, bien sûr. C'est une ode à la vie.
Okay.
C'est une ode à la vie, à la fraternité et à la capacité de résilience de peuple éprouvé dont le quotidien, 80% d'entre eux, entre parenthèses, est essentiellement axé sur l'urgence et la nécessité. Par exemple, ces gens-là peuvent passer, être obligés de passer 2 heures de leur journée à aller chercher de l'eau. Donc, on peut dire que c'est beaucoup de temps dans une journée simplement pour survivre. Il y parle, en parlant de Godet, de cette réalité sociale qui fait ressortir le contraste entre les riches et les pauvres. Il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un petit épisode dans Pétionville qui est le quartier riche. On y retrouve aussi le désir de bonheur chez les plus démunis, qui trouve sa place après la journée, à la fin de la journée, dans la douceur des rencontres avec les amis au Fessou, qui est un ancien bordel. Puis, la tragédie fait ressortir une solidarité très forte qui reconnaît le lecteur sur l'espoir, la possibilité éventuelle de voir les choses autrement pour l'avenir. Tout ça sans verser dans le mélo, le pathos ou l'angélisme.
Non, c'est ça. J'ai une petite question, parce que moi, je ne l'ai pas encore lu, même si je l'ai là sous la main. Est-ce qu'on assiste au séisme? Est-ce qu'il y a plusieurs pages qui sont consacrées au séisme?
Oui, à partir de la deuxième partie, c'est vraiment carrément le tremblement de terre et l'après-tremblement de terre.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai parlé, je pense, du résumé. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Je me cherche dans mes notes, là.
Non, mais c'est peut-être de ma faute.
Mais Gaudé. Pourquoi j'ai Gaudé? Gaudé raconte qu'il a découvert Port-au-Prince, décrite dans le roman comme puante, grouillante, bruyante, 3 ans, à vrai dire, après le séisme. Et cette ville était encore à ce moment-là un immense cimetière parce que la majorité, n'oublions pas, des morts n'ont jamais été trouvés. Il y avait encore aussi des camps de réfugiés à cette époque-là. Il a constaté qu'on a volé à ces gens le temps de deuil nécessaire après la tragédie.
Ah oui.
Ce qui expliquerait la présence de ces ombres dont on parle dans le titre, qui traversent le récit et dont il devient nécessaire de se débarrasser. Alors, c'est un immense hommage au peuple, à ses croyances, empreintes de vaudou, parce que le vaudou est présent, à la terre haïtienne, 5 ans après le séisme. Et lorsque c'est sorti, c'est pas un livre nouveau, c'était sorti en 2015. Oui. On n'a pas le temps de faire une petite lecture.
Bien sûr que si. Il nous reste un bon 2 minutes. Prenez votre temps.
Oui, alors, écoutez, je voulais vous lire cette discussion parce que, bien sûr, il y a toute la portion qui porte sur le tremblement de terre et on cherche les personnes qu'on aime, les vivants. Mais dans cet épisode du Fessiou, là, où on retrouve les amis, il y a une discussion sur le bonheur. Alors, crois-moi, Sénèque, ça nous permet en même temps de présenter les personnages, certains personnages. Crois-moi, Sénèque, le bonheur est dans l'instant et nulle part ailleurs. À mon âge, on le sait. Le vieux a raison, dit Pabava avec placidité. Les Grecs le disaient déjà. Mais le facteur ne se rendait pas. J'y croirais volontiers à vos histoires d'instant s'il n'y avait pas la mémoire. Les deux compères se turent, surpris par l'argument de leur ami. Le facteur se hâta de poursuivre. L'instant, d'accord. Si nous étions des êtres sans aucun souvenir, alors oui. Va pour le bonheur comme une succession d'états de plaisir, de douceur. Mais il y a la mémoire, mes amis. Pourquoi sommes-nous dotés de mémoire si nous sommes voués à l'instant? Monsieur, je crois que notre ami marque un point, ponctua Jasmin avec un large sourire. Comment jouir de l'instant lorsque vous êtes traversé de regrets, de nostalgie? Et inversement, ne vous est-il jamais arrivé d'être heureux à l'évocation d'un bonheur passé? Moi, ajouta Jasmin avec un air goguenard, ce que j'aime dans le plaisir de l'instant, c'est surtout le plaisir. Les amis rirent, mais soudain, c'est la voix de Boutra qui se fit entendre. Tout le monde se tourna vers le jeune homme qui n'avait pas l'habitude de participer aux discussions. « Je suis d'accord avec le facteur. L'instant, c'est bien beau, mais qui peut vivre véritablement comme ça? On ne peut pas s'en empêcher, je veux dire, de construire dans sa tête des projets, des rêves. Je veux dire, de se remémorer aussi. Le bonheur, le vrai, il est où? Toujours derrière ou toujours devant? » Saul et Lucine s'étaient joints à nouveau à leurs amis, mais ils restaient silencieux près du bar. Saul et Lucine, ce sont le petit couple qui se forme pendant le récit. Très, très bon roman. Je vais vous dire, on est vite emporté dans la danse, non seulement avec les ombres, mais surtout avec les vivants dans ce roman-là.
Alors, on va rappeler le titre « Danser les ombres » de Laurent Godet. Godet, ça s'écrit G-A-U-D-E. On va dire ça comme ça. C'était présenté aujourd'hui par l'ami Carmen Lepage qui se fait décidément trop rare et que j'imagine que, comme moi, vous avez retrouvé avec un très, très grand plaisir. Merci beaucoup, Carmen, et bonne fin de journée.
Ça a été mon plaisir. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt. Vous avez peut-être reconnu l'indicatif de la bande-annonce de la semaine prochaine. Il me semble que ça fait longtemps que je vous l'annonce, mais vous savez comment c'est parfois quand on fait des émissions, on est obligé de travailler fort et puis pratiquer des petits changements à droite et à gauche. Mais cette fois-ci, c'est vrai, vous allez entendre une émission que j'ai enregistrée déjà avec la formidable, l'extraordinaire, et je pèse le poids de mes mots, Nicole Bordelot. Un bonheur d'émission, c'est un bonheur d'inviter, c'est quelqu'un d'une grande, mais d'une très grande force tranquille. C'est une femme qui s'exprime à merveille et surtout qui exprime à merveille les épreuves notamment et puis le cheminement qu'elle a vécu pour se sortir de ces épreuves-là. Et vous savez, on la croit, on l'adopte même et on s'y met finalement. Elle nous donne tout un tas de trucs et de conseils et tout ça pour essayer nous-mêmes de nous sortir peut-être de situations embarrassantes, mais elle, on la croit. Ne pensez pas que ce livre, L'art de se réinventer, est une machine à faire du fric, comme on a eu à un moment donné Le Secret, par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui est passé par toutes sortes de drames énormes, profonds. Je parle de désintoxication profonde, d'alcool, drogue, etc. Je parle d'hépatite la plus grave. On la savait condamnée. Je parle de cancer. Je parle donc Nicole Bordelot. Ne manquez pas cette femme-là qui a écrit pour vous, pour nous tous, L'art de se réinventer, un livre qui, depuis que je l'ai lu, est constamment sur ma table de chevet parce que c'est le genre de livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page, il y aura toujours quelque chose qui va nous allumer. Tenez, par exemple, j'ai ouvert là, comme ça, la page 105, et elle nous dit « Devant les défis et les difficultés, persévérer, c'est conserver la flamme de l'espoir afin de faire chaque jour un pas de plus vers la réalisation d'un rêve.
Persévérer, c'est continuer d'avancer malgré la noirceur et malgré la peur. La persévérance, à la différence de la persistance, est faite de sagesse, de courage et de compassion. Et ça, c'est à chacune des pages. Vraiment, quand je vous dis que c'est un livre qui fait du bien, et je voudrais me permettre de vous lire ne serait-ce que l'avant-propos qui va vous donner une bonne idée de ce que cette femme-là a vécu pour en arriver à se faire du bien, parce que c'est ce qu'elle dit en écrivant ce livre. Et en plus, elle écrit tellement bien. « L'aube tire doucement sur la manche de mon pyjama. Sans résistance, je me lève. Il a plu à torrent durant la nuit. Dehors, la nature s'étire, la pluie l'a reposée. C'est un matin d'une grande intensité lumineuse. Au rez-de-chaussée de la maison, la cuisine est silencieuse. Le monde commence aujourd'hui et je renais avec lui. Cela me fait sourire intérieurement, car il fut un temps où jamais je n'aurais pu écrire ni même penser de tels mots. Chaque jour était pour moi un épuisant combat. Après des années d'errance et de faux départs, j'atterrissais dans la réalité et le choc était brutal. Je sortais d'une dépendance à la cocaïne et d'une relation amoureuse qui m'avait coûté très cher en estime de moi. À cette époque, je n'avais que 25 ans, mais j'avais l'impression d'en avoir 105. Tout m'apparaissait tellement lourd et difficile à vivre. Je ne savais plus qui j'étais et encore moins ce que je voulais devenir. La seule chose qui me restait à faire, c'était de recommencer à zéro. Je devais me réinventer de A à Z. La seule bonne nouvelle, c'est que cette fois, je choisirais moi-même les nouveaux morceaux pour me créer cette nouvelle vie. Et pour y parvenir, je devrais prendre les bouchées doubles. J'ai commencé par dénicher un petit appartement et un emploi. Je travaillais le jour et le soir, j'étudiais pour obtenir un diplôme qui m'ouvrirait les portes de la mode et des médias. J'en avais rêvé toute ma vie. Après plusieurs années d'efforts, j'avais réussi à me refaire une santé. J'enseignais dans une grande école de mode, j'avais rencontré le grand amour, mais je n'avais pas encore trouvé de temps pour vivre. Au quotidien, ma vie était un véritable tourbillon d'activités et de projets sans fin. Mais les choses allaient bientôt changer. À 38 ans et des poussières, on m'a appris que j'étais porteuse d'un virus mortel, l'hépatite C, pour lequel, à cette époque, il n'y avait aucun traitement. J'étais terrifiée, mais je n'avais d'autre choix que d'avancer vers ce nouveau monde. Et puis, elle s'en est sortie. Là, je vais me permettre de sauter quelques paragraphes. Elle dit que ce livre, elle le porte en elle depuis le début de cette aventure. Au terme de 25 années sur mon parcours, écrit Nicole Bordelot, j'ai assemblé patiemment les trésors, les leçons et les enseignements de vie qui m'ont aidé à me réinventer, à me redéfinir. Vous ne trouverez pas dans ce livre ni recette ni formule magique pour transformer votre vie en coup de baguette. En ce qui me concerne, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, de patience, d'efforts et d'erreurs de parcours pour arriver à transformer ma vie intérieure et ma vie extérieure. Elle conclut en disant « J'espère que vous trouverez dans cet ouvrage un mot, une phrase, une réflexion, un exercice ou une méditation qui vous aidera à réaliser que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre le meilleur de votre vie, dès aujourd'hui. Que la vie vous soit douce, Nicole. » Nicole comme Nicole Bordelot, que je reçois donc la semaine prochaine à l'émission « Des livres plein les oreilles ». Des nouvelles et des livres, c'est sorti la semaine dernière, le décès de Martin Gray. L'écrivain Martin Gray décédé le 25 avril 2016. Martin Gray, d'origine juive polonaise, né à Varsovie le 27 avril 1922. Il a été retrouvé décédé dans la piscine de sa seconde résidence à Siné, une petite ville à la lisière des Ardennes dont est originaire sa dernière épouse selon la justice locale. C'est un grand monsieur qui disparaît. C'est un exemple pour la jeunesse, a confié Jean-Marie Schaeffer, le bourgmestre, donc le maire de Siné, dont Martin Gray était citoyen d'honneur depuis 2013. Martin Gray est surtout connu pour son best-seller autobiographique sorti en 1971, Au nom de tous les miens. Rédigé avec le romancier et biographe français Max Gallo, le livre, lu par des millions de lecteurs et traduit en plus de 20 langues, raconte notamment son expérience du ghetto de Varsovie et son évasion du camp d'extermination de Treblinka, où sa mère et ses deux frères sont morts. Le jeune homme avait alors rallié le ghetto de Varsovie, où son père était mort dans l'insurrection de la résistance juive au printemps 1943. Après avoir rejoint l'armée soviétique en 1944, Martin Gray avait émigré en 1947 aux États-Unis, où il fit fortune dans le domaine des copies d'antiquités, avant de rejoindre le sud de la France dans les années 1960. Mais en octobre 1970, après 10 ans de mariage heureux, le destin le frappe à nouveau. Son épouse, Dina, 43 ans, rencontrée aux États-Unis, et leurs 4 enfants, âgés de 2 à 10 ans, périssent en essayant de fuir l'incendie de leur maison dans le massif du Tanneron, sur les hauteurs de Cannes, dans le sud de la France. Ce second drame avait également nourri son roman à succès. Il avait créé peu après une fondation, d'ailleurs une fondation Dina Gray, puis un centre international de jeunesse baptisé Arche du Futur pour rendre hommage à son épouse décédée. Martin Gray a incarné la tragédie de son siècle dont il a témoigné dans un récit qui a bouleversé le monde et connu un succès mondial, a déclaré la ministre française de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, saluant en lui un symbole de résilience. Au nom de tous les miens, objet de polémique aussi, hein, car certains épisodes auraient été romancés, avaient été adaptés en 1983 dans une fresque filmée de 2h30, puis déclinés en téléfilm à succès, avec notamment l'actrice Brigitte Fossé dans le rôle de Dina Gray et Macha Merrill dans celui de la mère du héros. Martin Gray incarne une des facettes des survivants des camps. Il a aussi survécu à une tragédie qui l'a frappé après la guerre, la mort de sa femme et de ses enfants. Certains ont mis en doute le récit de « Au nom de tous les miens », ce qui n'est absolument pas mon cas, a déclaré lundi à l'AFP l'ancien chasseur de nazis, Serge Klarsfeld. C'est un personnage chaleureux qui exprimait une force de vie rarissime. Perdre 2 fois sa famille et se retrouver seul, c'est quelque chose d'indicible. Il en est revenu et devant une telle vitalité, on s'incline à souligner Serge Klarsfeld. Alors que ses doutes avaient ressurgi à la sortie du film sur son passage à Treblinka, Martin Gray maintenait qu'il avait bien vécu dans ce camp de la mort. C'était comme si ma vie s'était déroulée devant moi. Ça a été parfois une épreuve, confiait-il après avoir visionné le long métrage réalisé par le Français Robert Enrico. Un long métrage que vous avez peut-être vu aussi, c'est Le Vieux Fusil. Quel film admirable! Je sens maintenant que ces visages de tous les miens, de ma mère, de mon père, de mes frères, disait Martin Gray, ne resteront plus enfouis dans le passé. Ils sont debout, vivants. Je sais qu'ils vont marcher à côté de chaque spectateur. Alors Martin Gray, si vous voulez retomber dans l'œuvre de Martin Gray, il y a d'abord au SQLA plusieurs livres disponibles. Ce sont les suivants. « La vie renaîtra de la nuit »,« Ma vie en partage », Au nom de tous les miens, bien sûr, il y est, les forces de la vie, j'écris aux hommes de demain et les pensées de notre vie. Et il y a également des livres à l'INCA. Il y a j'écris aux hommes de demain, qu'on retrouve donc au SQLA et à l'INCA. Il y a également vivre debout, comment faire face dans un monde en crise, le livre de la vie pour trouver le bonheur, le courage et l'espoir. Et puis enfin, Les forces de la vie, un autre et dernier livre de Martin Gray que vous pourrez trouver à l'INCA. Alors, j'ai des titres en rafale pour vous, bien sûr, sinon l'émission ne serait pas complète. Je voudrais d'abord vous proposer Broadchurch d'Erin Kelly. C'est une série. Hein. J'ignore complètement si elle a été présentée, cette série-là, à la télévision avec vidéo-description. C'est ce que je voudrais savoir. On sait qu'elle a été présentée, mais y avait-il vidéo-description? Je me suis dit, s'il n'y avait pas vidéo-description et que vous n'avez donc pas pu profiter de cette série-là, je vous recommande sa lecture. Nous sommes dans une petite station balnéaire de Broadchurch, dans le Dorset. Il y a Beth Latimer qui constate la disparition de son fils de 11 ans, Danny. Alors qu'elle part à sa recherche, elle est complètement paniquée. Sa meilleure amie, qui est elle l'officier de police Ellie Miller, rentre de vacances et elle apprend que la promotion qu'on lui avait promise a été offerte à un inspecteur à la réputation douteuse qui s'appelle Alec Hardy. Alors, on va finalement retrouver le corps de Danny sur la plage. Alors, Ellie doit mettre ses rancœurs de côté pour travailler avec Alex Hardy. Et évidemment, alors avec toutes les complications que cela suppose. Mais je voudrais vous dire que c'est peut-être pas forcément pour l'histoire. Je veux dire, oui, l'histoire est importante et c'est sûr que l'énigme est importante et tout ça. Mais les personnages, c'est vraiment à lire aussi pour les personnages. Si ce n'est même encore plus que pour l'intrigue. Ils sont tous troublés, ils sont tous troublants. On s'attache à eux, à leur histoire, d'autant plus qu'on n'a pas affaire aux flics de télé beaux comme des cartes de mode. Et vraiment, ce sont des personnages qui nous ressemblent. Alors, c'était donc le premier livre que je vous proposais, Broadchurch, d'Erin Kelly. Je vais faire une petite pause musicale. On peut reprendre le même thème, mon ami, et puis je vous reviens avec d'autres titres en rafale. Alors, j'ai envie de vous proposer maintenant La Confession de la Lionne de Mia Couteau. Un petit résumé. Couteau, ça s'écrit C-O-U-T-O, non pas comme un couteau, une fourchette. Le résumé, c'est lorsqu'un chasseur du nom d'Arcanjo Baleiro arrive à Kulumani pour tuer les lions mangeurs d'hommes qui ravagent la région, il se trouve pris dans des relations très complexes et énigmatiques, des relations où se mêlent des faits, des légendes et des mythes. Une jeune femme du village, qui s'appelle Marie Amar, a sa théorie sur l'origine et sur la nature des attaques des bêtes. Sassur Silencia en a été la dernière victime. L'aventure est racontée par ces deux voix, le chasseur et la jeune fille. Au fil des pages, on découvre leurs histoires respectives, la rencontre avec les bêtes sauvages qui amène tous les personnages à se confronter avec eux-mêmes, avec leurs fantasmes et leurs défauts. La crise met à nu les contradictions de la communauté, les rapports de pouvoir, tout autant que la force, parfois libératrice, parfois oppressive, de leurs traditions et de leurs croyances. L'auteur a vécu cette situation de très près, figurez-vous, lors d'un de ses chantiers. Ses fréquentes visites sur le théâtre du drame lui ont suggéré l'histoire inspirée de faits et de personnages réels qu'il rapporte ici. Clair, rapide, déconcertant. Mia Couteau montre à travers ces personnages forts et complexes la domination impitoyable sur les femmes, la misère des hommes, la dureté de la pénurie et des paysages. Tiens, parlant d'histoire vraie, justement, c'est le titre d'Après une histoire vraie et c'est de Delphine de Vigan, un livre que j'ai tellement hâte de lire. C'est un livre qui est le récit de la rencontre de Madame de Vigan avec elle. Elle, comme la lettre elle, c'est le cauchemar de tout écrivain, ou plutôt le genre de personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser. Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d'une époque fascinée par le vrai et, il faut le rappeler, ce livre a obtenu le prix Renaudot en 2015. Un avis d'un lecteur, c'est le quatrième livre, dit-il, de Vigan que je viens de lire. Les précédents étaient tous excellents, mais alors celui-là, en un seul mot, est génial. L'histoire est simple. L'écrivaine, après le succès fulgurant de son dernier livre, Rien ne s'oppose à la nuit, basé sur l'histoire vraie de sa mère, disponible aussi au SQLA, est assaillie par le doute face aux questions du public et de son entourage sur ce qu'elle va bien pouvoir écrire après un tel succès. Creuser plus encore dans son intimité ou une pure fiction. Et c'est là qu'elle fait la rencontre d'une femme étrange, elle, d'à peu près son âge, qui travaille comme nègre dans la vie. Une femme qui rappelle un personnage de Misery de Stephen King. Vous savez, ce personnage assez incroyable qui d'ailleurs a été porté également en film, au cinéma. Alors c'est elle qui va s'immiscer dans sa vie comme une sangsue à l'insu de toute sa famille et de son entourage et va vite l'entraîner en panne d'écriture, voire même en dépression. Voilà ce que raconte ce livre incontournable de Madame Delphine de Vigan, V-I-G-A-N, qui s'appelle « D'après une histoire vraie ». Trois fois dès l'aube d'Alessandro Baricco, ce sont deux personnages qui se rencontrent à trois reprises. Un homme commence à parler avec une femme dans le hall de son hôtel et quand celle-ci a un malaise, il l'héberge dans sa chambre. Leur conversation se poursuit, l'homme s'ouvre à elle mais mal lui en prend. un portier d'hôtel aide une jeune cliente à s'enfuir afin d'échapper à son compagnon, un individu violent et dangereux. Plus âgé qu'elle, il lui révèle qu'il a passé 13 ans en prison à la suite d'un meurtre. Et puis Malcolm, le personnage de la première rencontre, est encore enfant quand ses parents meurent dans l'incendie de leur maison. Pour le soustraire aux suites de ce drame et l'emmener dans un endroit sûr, une inspectrice de police le conduit chez un de ses amis. Voici donc trois histoires nocturnes qui se concluent à l'aube et qui marquent chacune à sa façon un nouveau départ. Ce sont trois facettes qu'Alessandro Barrico rassemble dans un récit que l'on dit hypnotique et puissant, non dépourvu d'élégance et même de sensualité. Alors je vous rappelle le titre, « Trois fois dès l'aube » d'Alessandro Barrico. Et puis pourquoi ne pas vous procurer « Vivre sans pourquoi » itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée d'Alexandre Jolien ou Jolien, J-O-L-L-I-E-N, philosophe, père de famille, mais aussi handicapé mental et physique. C'est un être absolument extraordinaire et je vous recommande tous ses livres, à monsieur Alexandre Jolien. Voilà, je vais vous quitter avec cette dernière suggestion. Je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup à Maurice d'avoir été là de l'autre côté. Et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres livres et une nouvelle émission.